5e édition du congrès virtuel de Fées. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, nous sommes ensemble pour la conférence Intérêt de l'EFT dans la prise en charge du cancer. Nombreux sont ceux qui sont confrontés au cancer aujourd'hui, que ce soit à titre individuel ou bien dans notre famille ou nos relations. Est-ce une maladie uniquement génétique ou due au hasard, dans laquelle nous sommes des victimes impuissantes, ou bien peut-on agir sur notre environnement pour reprogrammer nos cellules? Dans cet environnement, quelle est la place du stress et plus précisément des émotions non exprimées? Est-ce un facteur secondaire ou un élément à prendre en compte dans la prise en charge globale du cancer? Pour avoir connu des cas de cancer dans sa famille, dans lesquels un stress psychologique a précédé le diagnostic de cancer, et pour avoir fait des recherches scientifiques sur le sujet, notre conférencier ce soir est très documenté sur les rémissions spontanées de cancer. Il est médecin travaillant en clinique psychiatrique à Marseille et il nous invite à discuter des dernières découvertes sur le sujet. L'épigénétique et la physique quantique peuvent-elles nous aider à comprendre l'impact de nos émotions sur la programmation de l'ADN? La libération émotionnelle peut-elle influencer jusqu'à notre ADN? Notre conférencier est également membre du conseil scientifique de l'IFPEC et de l'Alliance pour l'amélioration globale de la santé et il va partager son expérience et une stratégie d'utilisation de l'EFT dans le traitement de pathologies comme le cancer en tant que traitement complémentaire. La prévention du cancer sera également envisagée sur son versant psychologique. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Drouin. Bienvenue Julien.
Bonsoir Maria.
Bonsoir, merci à toi d'être là.
Je suis très heureux de participer pour la première fois au congrès virtuel EFT et merci pour l'invitation.
Bienvenue parmi nous Julien, c'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à étudier ce lien entre stress psychologique et cancer?
Donc, j'y suis venu un peu par la force des choses, en fait. Hein, parce qu'en mars 2013, il a été diagnostiqué un cancer du côlon et du foie à mon père. Et pour moi, à l'époque, c'était vraiment inexplicable parce qu'il ne possédait aucun facteur de risque classique du cancer du côlon. Hein, il n'avait pas de cas dans la famille. Il était sportif, il faisait attention à son alimentation et mangeait bio la plupart du temps. Donc c'était vraiment l'incompréhension. Alors je me suis mis à faire des recherches, parce que le hasard, je n'y ai jamais cru. Et je me suis rappelé qu'il avait subi un stress quelques mois auparavant. Et pas n'importe quel stress, hein, c'est un stress qui était survenu par surprise, et devant lequel il s'était senti impuissant, et surtout c'était un stress non exprimé. Et à la même période, ma grand-tante a déclaré un cancer de la dure mère, et son mari, à quelques semaines d'intervalle, a déclaré lui aussi un cancer. Et là aussi, les facteurs de risque classiques pour ce type de cancer étaient absents. Par contre, ils avaient connu tous les deux un choc émotionnel. Donc cela devenait de plus en plus difficile pour moi d'occulter cette variable et de faire comme si cela n'existait pas.
Ça faisait beaucoup.
Ouais. Donc, très souvent, lorsque autour de moi, quelqu'un déclarait un cancer et que je posais la question « Y a-t-il eu un stress non exprimé les mois précédant le diagnostic ?» La réponse était oui. Divorce, accident, conflit, etc. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les cancers sont liés au stress. Évidemment non. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Et au fur et à mesure de mes recherches, et après avoir interrogé de nombreuses personnes, je me suis rendu compte que cette question était rarement posée, et que sa prise en charge n'était pas systématique. Donc j'ai cherché une technique de psychologie qui permette de libérer les émotions non exprimées. Et j'ai rencontré Jean-Michel Guret après avoir vu une conférence du professeur Bruce Lipton, qui est chercheur en épigénétique, et dans laquelle il parlait de nouvelles techniques de psychologie énergétique.
Oui, c'est vrai, Bruce Lipton Et prescripteur de EFT, il conseille ça pour modifier les cellules. Alors justement, qu'est-ce que tu as trouvé dans les articles scientifiques sur le lien entre le stress et le cancer?
Alors d'après une étude parue dans le Journal of Psychosomatic Research, les personnes qui n'expriment pas leurs émotions ont un risque de décès par cancer qui est augmenté de 70% par rapport à ceux qui expriment leurs émotions. Et ils ont également un risque de décès par accident cardiaque qui est augmenté de 50%. Il y a une étude française qui montre qu'il existe une association significative entre le risque de développer une tumeur maligne du cerveau et la survenue d'un événement de vie occasionnant un stress majeur dans les 5 années précédant le diagnostic de cancer. Et d'après les auteurs, un stress psychologique aigu et soudain pourrait être responsable de l'apparition de tumeurs primitives du cerveau. Il y a une étude australienne qui a montré que les femmes ayant vécu un stress majeur et qui n'avait reçu aucun soutien émotionnel, avait 9,5 fois plus de risques d'être diagnostiqué avec un cancer du sein. Il y a aussi une étude qui a été réalisée sur 220 femmes en Inde par un chercheur de la Johns Hopkins University du Maryland aux États-Unis, et il a établi que les femmes qui ont eu un avortement ont un risque de développer un cancer du sein augmenté de 280%. Et plus le nombre d'avortements est élevé, et plus le risque augmente.
C'est énorme.
Il y a une étude de grande ampleur qui a été réalisée sur 99 000 femmes et qui a mis en évidence un lien significatif entre la survenue d'un événement de vie stressant et l'incidence du cancer du sein. Les auteurs ont constaté que le risque de cancer du sein était fortement et significativement associé à des événements de vie graves et traumatisants. Les personnes ayant connu de graves événements de vie auraient 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein que les individus indemnes. Donc les auteurs ont constaté que l'incidence du cancer du sein était liée à la fois au caractère inattendu de l'événement, frappant par surprise, et à la sévérité de l'événement. L'incidence de tous les types de cancers, mais en particulier le cancer du sein et colorectal, est plus élevée chez les Juifs israéliens exposés à l'Holocauste par rapport à ceux qui ne l'ont pas été. Bon, j'ai donc constaté une corrélation entre les émotions non exprimées et le cancer. Mais ce n'était pas suffisant, hein, je parle pour mon cerveau gauche. J'ai donc cherché les mécanismes biologiques pouvant expliquer ce lien, et j'ai étudié l'épigénétique et la physique quantique.
Alors, justement, pour les autres cerveaux gauches qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas ces nouvelles disciplines scientifiques, est-ce que tu peux nous les décrire en quelques mots?
Oui, alors commençons par l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Et contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles. Important à comprendre. Donc, en ce qui concerne le cancer, la chercheuse Mina Bissell de l'Université de Berkeley a démontré que des cellules tumorales, même mutées, peuvent redevenir saines si elles sont cultivées dans un environnement sain. Par exemple, lorsque des cellules tumorales sont injectées dans des souris saines, la tumeur ne se développe pas. Les gènes des cellules tumorales sont régulés par leur environnement. Les chercheurs Mintz et Immans ont également démontré que lorsque des cellules tumorales sont transplantées chez un animal sain, elles ne peuvent pas survivre et le cancer disparaît. Il y a aussi les chercheurs Lotem et Sachs qui ont publié un article en 2012 démontrant la possibilité de reprogrammer les cellules tumorales en cellules saines grâce à des modifications épigénétiques, les mutations génétiques étant toujours présentes. La reprogrammation a été réalisée avec succès sur des cellules de mélanome, de cancer de la prostate, de neuroblastome, de cancer du sein et du côlon. Et encore une fois, cela malgré les anomalies génétiques. Donc, d'après les auteurs, la suppression épigénétique du caractère tumoral court-circuite les anomalies génétiques dans les cellules tumorales. Donc la programmation génétique, d'après les auteurs, est plus puissante que la programmation génétique pour déterminer la santé des cellules. Chez l'homme, le docteur Dean Ornish, du département d'urologie de l'Université de Californie, a conduit une étude en 2008 chez des patients qui étaient atteints de cancer de la prostate de Vagrade. Et il a montré qu'un changement du mode de vie à lui seul permettait de modifier l'expression de 500 gènes chez ces patients. Dans cette étude, l'expression du gène protumoral RAN a été inhibée. Les changements du mode de vie consistaient à apprendre une technique de gestion du stress, à participer à un groupe de soutien psychosocial, à adopter un régime riche en fruits et légumes et pauvre en molécules d'origine animale, et à faire de l'exercice physique.
Autant de démarches relativement faciles à mettre en place, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, les cellules tumorales mutées peuvent redevenir saines si elles évoluent dans un environnement sain. Et est-ce que tu dirais que ce sont nos émotions qui constituent notre environnement interne, enfin qui en font partie en tout cas?
Ah oui, elles en font partie.
Ouais. Alors, quelle est l'influence des émotions sur la programmation des cellules?
Nos émotions influencent la programmation des cellules par le système nerveux végétatif. Hein, il contrôle toutes les fonctions inconscientes de l'organisme. Donc les battements cardiaques, la respiration, la digestion, la reproduction, l'immunité, important. Et retenez bien, ce système contrôle la multiplication des cellules souches. Hein, ce système est composé de deux branches qui ont des actions biologiques opposées. Comme dans une voiture, il y a un accélérateur et un frein. Donc, la voie sympathique est activée dans les situations de stress. C'est la réponse combat ou fuite. Et c'est l'accélérateur. Je vous donne un exemple. Vous vous promenez en forêt et vous tombez nez à nez avec un loup enragé. Les pupilles se dilatent, la respiration et le rythme cardiaque accélèrent, la tension artérielle augmente, le sang est dirigé vers vos muscles pour passer à l'action. L'activité du système digestif, immunitaire et de la reproduction ralentissent, parce qu'évidemment, ce n'est pas le moment en face d'un loup enragé de se reproduire, hein, ou de combattre un virus. Il faut survivre avant tout. Donc cette voie est activée dans toutes les situations de stress, mais dans un but bien précis. Hein, c'est d'aider l'organisme à survivre, à surmonter la situation. La voie parasympathique, c'est le frein. Elle est activée dans les situations de repos-réparation. Période pendant laquelle l'organisme récupère, répare les dégâts de la phase de combat. Alors là, les pupilles se contractent, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent, la pression artérielle diminue, les vaisseaux périphériques se dilatent, la digestion, la reproduction et le système immunitaire fonctionnent correctement à nouveau.
Donc l'idée, c'est d'osciller entre ces deux systèmes de façon naturelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce système lorsque les émotions ne sont pas exprimées, lorsque nous réprimons nos émotions?
Réprimer ces émotions active le système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur.
Ça met en situation, c'est le loup interne en fait.
Exactement. Ouais. Par exemple, il y a le docteur Schuller du laboratoire d'oncologie expérimentale de l'Université du Tennessee qui a montré que l'activation de la voie sympathique stimule un réseau complexe de signaux intracellulaires qui régule la prolifération des cellules du cancer du pancréas et du poumon, ainsi que la migration et l'angiogénèse, qui est la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur. Et que les effets biologiques de l'activation de la voie sympathique sont accentués par la suppression simultanée de la voie parasympathique. Bon, tout le monde sait aujourd'hui que le tabagisme est un facteur de risque bien connu de tous les types de cancers du poumon. Cependant, le plus commun des cancers du poumon, le cancer du poumon non à petites cellules, se développe fréquemment chez des patients qui n'ont jamais fumé, et particulièrement chez les femmes et les Afro-Américains. Donc des facteurs de risque non liés au tabagisme chronique pourraient être en cause dans la survenue de ce cancer. Des études expérimentales récentes, in vitro et chez l'animal, ont montré que le stress chronique déclenche une hyperactivation de la voie bêta-adrénergique ou sympathique, qui stimule le développement, la croissance et l'invasion du cancer du poumon non à petites cellules. Des études cliniques récentes qui ont démontré une amélioration de la survie des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules et traités par bêta-bloquants. Les bêta-bloquants bloquent la voie sympathique. D'accord? Donc c'est en faveur de cette interprétation.
D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui se passe si on arrive à libérer les émotions?
Alors si on libère les émotions, il y a activation de la voie parasympathique, c'est-à-dire qu'on appuie sur le frein, via la libération d'un neurotransmetteur dans ce type de cancer, qui est le GABA. Or, le GABA inhibe la prolifération des cellules souches saines et tumorales. Donc, d'après le docteur Schuller, maintenir l'équilibre de ce système est une clé de prévention et de traitement des cancers. et elle suggère que l'utilisation de bêta-bloquants, de GABA, ainsi qu'une psychothérapie de réduction du stress, soient des outils importants dans la prise en charge de ce type de cancer. Il a été démontré scientifiquement que l'EFT augmente le taux de GABA, qu'il active la branche parasympathique, qu'il inhibe la branche sympathique, il diminue le taux de cortisol et qu'il augmente la cohérence cardiaque. Donc l'EFT est un outil qui permet de désactiver la réponse combat ou fuite du système nerveux automatique.
Donc l'équilibre du système nerveux automatique est très important pour contrôler la multiplication des cellules tumorales.
Oui. Et sachez que ce réglage commence très tôt. L'Université de Genève a démontré que la réponse au stress est programmée épigénétiquement en fonction des soins maternels. Donc les carences affectives, la maltraitance, dérégulent la réponse au stress et donc appuient sur l'accélérateur. Je compare souvent les émotions non exprimées à de l'eau qui remplit petit à petit une carafe. Le poids de la carafe pèse sur le système nerveux automatique, comme lorsqu'on appuie sur l'accélérateur dans une voiture. Et lorsqu'on atteint une certaine pression, les cellules souches peuvent se multiplier. C'est pour cela que lors de la prise en charge du cancer en EFT, remonter dans l'enfance pour dépister et libérer les émotions toxiques qui pourraient inconsciemment déréguler le système nerveux autonome a de la valeur. Et apprendre l'EFT très tôt dans la vie, chez les enfants, dans les écoles, est aussi un très bon moyen d'éviter que la carafe se remplisse.
Oui, bien sûr. Donc le message à travers l'épigénétique, c'est qu'on peut créer un environnement défavorable au développement du cancer, donc favorable à une bonne santé. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu as trouvé du côté de la physique quantique ?
Oui. Alors nous avons l'habitude de penser à la réalité comme quelque chose de figé, de certain, et que nous ne pouvons pas changer. Mais comme vous allez le voir, c'est loin d'être le cas. Donc si on veut utiliser le pouvoir de l'esprit et de nos émotions dans le cancer, il est important de comprendre la vraie nature de la réalité, comment l'esprit et la matière sont reliés et comment la réalité peut changer. Lorsque les physiciens quantiques ont commencé à zoomer sur les aspects de plus en plus petits d'un atome, comme son noyau, plus ils zoomaient et moins l'atome devenait distinct et observable, jusqu'à ce que finalement il disparaisse complètement. L'atome, d'après leur conclusion, est rempli à 99,99999% d'espace vide. Mais cet espace n'est pas vraiment vide. Il est en réalité rempli d'énergie. Et plus précisément, il est composé d'une vaste gamme de fréquences énergétiques, comme des ondes, qui forment comme un champ d'information invisible et interconnecté. Donc si chaque atome est fait à 99,99999% d'énergie ou d'information, cela veut dire que notre univers connu et tout ce qui est à l'intérieur, dont notre corps physique, et peu importe à quel point cette matière nous apparaît solide, n'est essentiellement que de l'énergie et de l'information. Et Albert Einstein en avait parlé, puisqu'il disait « En ce qui concerne la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière est de l'énergie, dont la vibration a été abaissée au point de devenir perceptible par nos sens. » Il n'y a pas de matière. Il n'y a que de l'énergie et de l'information. Alors, ce n'est pas la seule découverte bizarre réalisée par les physiciens au sujet de l'univers quantique. Ils ont aussi découvert que lorsqu'ils observaient les particules de matière subatomique, ils pouvaient changer ou modifier leur comportement. Ce n'est que lorsque l'observateur concentre son attention quelque part dans le champ d'énergie que l'électron, la matière en fait, apparaît à cet endroit. Et s'il regarde ailleurs, la particule subatomique de matière disparaît et redevient de l'énergie. Donc une autre façon de voir les choses, c'est de dire que dans le monde quantique infiniment petit, l'esprit subjectif a un effet sur la réalité objective. Donc votre état d'esprit peut devenir matière. Ce qui veut dire que nous avons tout intérêt à en tenir compte.
Oui, parce que de là à penser que nos propres pensées et nos émotions auraient une influence puisque c'est de l'énergie. Effectivement, notre corps est un champ énergétique, l'énergie de nos pensées sont donc capables d'affecter notre santé.
Ouais,
et même l'état des cellules. Mais cette énergie, Julien, comment elle est transmise, l'énergie des pensées et des émotions, comment elle est transmise, transférée dans les cellules ?
Alors, elle est transmise par la lumière, une lumière invisible. La lumière, c'est un programme qui informe les processus cellulaires. D'après le professeur Gary Schwartz, qui est professeur de psychologie, de médecine et de neurologie à l'Université d'Arizona, les pensées sont une émission de biophotons. Alors, les biophotons, ce sont des particules de lumière porteuses d'informations, codées sous forme de fréquences, qui sont émises par tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les êtres humains. Et chez l'homme, le fait d'orienter ses pensées vers quelque chose de précis, ce que les scientifiques appellent l'intention, produit une énergie assez puissante pour transformer la réalité physique.
Donc nos cellules communiquent entre elles avec de la lumière. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un cancer alors?
Alors le professeur Pop, qui est biophysicien à l'université de Marbourg en Allemagne, a examiné une des substances les plus cancérigènes qui soit, le benzoapyrène. Et lorsqu'il a envoyé une lumière ultraviolette sur cette substance, il a découvert qu'elle absorbait une certaine longueur d'onde, à la différence de substances inoffensives. Et après avoir étudié 37 autres substances chimiques, le professeur Pop a découvert que les substances cancérigènes absorbent la lumière ultraviolette de la même façon. Elles absorbent constamment la fréquence de 380 nanomètres. Donc, de toute évidence, cela signifie que cette fréquence est très importante pour notre santé. Le professeur Pop a aussi découvert que des cellules mortes recevant cette fréquence, ou cette onde d'énergie régénératrice de 380 nanomètres, bénéficiaient d'un remarquable effet guérisseur. Ensuite, le professeur Glenn Rain, du laboratoire de recherche de biologie quantique de Northport aux États-Unis, a fait une découverte encore plus intéressante. Un individu qui était particulièrement perturbé et dont les ondes cérébrales étaient incohérentes a produit un changement anormal dans la lumière ultraviolette que l'ADN absorbait. Et ce changement s'est produit à une longueur d'onde de 310 nanomètres, ce qui est proche de la valeur de 380 nanomètres établie par le professeur Pop, la même fréquence qui peut provoquer le cancer lorsqu'on le brouille.
Donc, il y a un lien avec les émotions. Il y a vraiment intérêt à surveiller l'expression des émotions.
Ah oui, plutôt intérêt, oui. Ouais.
Alors, suite à ces différentes études et ton parcours personnel, je sais que tu as été amené à étudier les rémissions spontanées de cancer. Qu'est-ce que c'est une rémission spontanée de cancer et que font les patients qui vivent cette expérience?
Donc, la définition d'une rémission spontanée de cancer, c'est la disparition, complète ou incomplète, d'une maladie ou d'un cancer, sans traitement médical, ou bien avec un traitement qui est considéré comme inadéquat, pour avoir comme résultat la disparition de la maladie ou de la tumeur. Et que font ces patients? Eh bien oui, justement, ils font quelque chose. Ils agissent. La rémission ne tombe pas du ciel. Et l'action qui revient très souvent est la libération des émotions non exprimées. Le docteur Bernie Siegel, qui est chirurgien et auteur du best-seller « L'amour, la médecine et les miracles », a répertorié 57 cas extrêmement bien documentés de miracles. Un miraculé du cancer est quelqu'un qui ne décède pas alors qu'il aurait dû le faire de manière certaine. Et quel a été le changement commun effectué par ces 57 patients? Eh bien, à un certain moment, ils ont tous pris la décision de libérer leurs ressentiments, leur colère et leurs émotions réprimées. Ils se sont montrés aimants d'abord envers eux-mêmes, puis avec leur entourage. Et à partir de ce moment, la tumeur a commencé à disparaître. Il y a aussi le docteur Kelly Turner, qui est chercheur en oncologie intégrative et diplômé de l'université de Berkeley. Elle a publié en 2014 un livre très intéressant intitulé « Rémission radicale, survivre du cancer contre toute attente », qui n'est pas encore traduit en français, et dans lequel elle raconte avoir interrogé plus de 1000 cas de rémission spontanée de cancer. Et ce qu'elle met clairement en évidence dans le livre, c'est que ces guérisons n'ont rien de miraculeux ou spontané. Ces personnes ont agi sur leur environnement, émotionnel, sur leur alimentation, elles ont fait l'exercice, elles ont pris des plantes et des compléments alimentaires. Donc, comme nous l'avons vu avant, elles ont reprogrammé leurs cellules.
Elles ont créé un terrain favorable à la santé et défavorable aux cellules tumorales.
Exactement.
Est-ce que tu as d'autres exemples concrets à citer
Alors oui, je vais citer le cas de Shannon Knight, qui est une Américaine qui a eu un cancer du sein en 2006. Alors de stade 3 avec récidive en stade 4. Elle a été victime d'une agression violente et a même dû changer de nom avant le diagnostic. Et elle rapporte qu'elle a vécu tout ce stress dans l'isolement et qu'elle n'a rien exprimé. Et d'après elle, la clé de sa rémission est d'avoir fait la paix avec elle-même en libérant toutes les émotions négatives, la culpabilité, la honte. Et aujourd'hui, elle est en rémission. Et je citerai aussi le cas d'une dame qui a développé un cancer cervical de stade 4 métastatique après un divorce brutal et inattendu. La patiente s'est d'abord faite opérer, puis avec l'accord de son médecin, elle a pris un peu de temps pour libérer toutes les émotions toxiques liées à son divorce. Alors elle a utilisé plusieurs techniques combinées, la psychologie énergétique, le yoga, le rire, le reiki, etc., pour libérer tout le ressentiment présent dans son corps. Et deux semaines plus tard, le scanner et les analyses de sang ne retrouvaient aucune trace de cancer chez cette patiente. Ouais. Donc deux exemples qui nous encouragent à prendre en compte les émotions dans la prise en charge du cancer. Mais attention, je précise que l'EFT est un traitement complémentaire dans le cancer.
Oui, bien sûr. C'est un outil de plus, mais on a bien vu l'importance des émotions, donc ouais. Pourquoi pas tenter. Alors justement, après avoir vu l'importance de cette prise en charge émotionnelle, place à la pratique. Comment utiliser l'EFT dans les cas de cancer? Est-ce que tu as une stratégie particulière?
Oui, mais avant de travailler en EFT, je pense qu'il est utile de définir des objectifs. En posant les questions suivantes, par exemple. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ou qu'est-ce qui vous fait envie? Simplement pour définir des objectifs et mettre les gens sur le chemin de leurs rêves et ainsi augmenter les émotions positives. Donc cela peut être des choses toutes simples, comme le fait d'acheter un chien, visiter un pays inconnu, se mettre à la peinture, au chant, etc.
Oui. L'idée principale, c'est de cesser de vivre pour les autres et commencer à vivre pour soi, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Alors effectivement, nous pouvons inviter nos auditeurs à noter quelques objectifs de ce style. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et ensuite, comment travailler ça avec l'EFT?
Alors avant toute chose, il est important de préciser que l'EFT, l'efficacité de l'EFT dépend du travail personnel. Il faut s'impliquer. Une chose est claire pour moi, dans les pathologies comme le cancer, les gens arrivent avec une longue liste de traumatismes non exprimés. C'est aussi le cas dans la clinique psychiatrique où je travaille. Et personnellement, lorsque j'ai commencé à faire la procédure de paix personnelle, je peux vous dire que j'ai rempli un cahier entier.
On peut, oui.
Donc, mon conseil numéro un, c'est de pratiquer tous les jours. Alors, à heure fixe, pour que cela devienne un automatisme. C'est un peu comme le brossage de dents. Comme on se brosse les dents 3 fois par jour, eh ben on se brosse aussi les émotions.
Oui, c'est bien de le préciser. Parce que la personne peut se dire, oh, je vais utiliser l'EFT quand je me sens stressée, quand j'ai quelque chose à faire, passer un examen, et puis tout ira bien.
Oui, exactement. La prise en charge en EFT demande un travail constant sur soi, et pendant plusieurs mois. Parce que mettre en lumière toutes nos zones d'ombre demande du temps, de la patience et de la persévérance.
Oui, effectivement. Donc le message est clair, l'EFT n'est pas une recette miracle ou une baguette magique, c'est quelque chose qui se travaille, et après avoir averti donc qu'il peut y avoir du pain sur la planche, par où peut-on commencer, Julien?
Alors au départ, je conseille de faire une liste de peurs, toutes les peurs du moment présent. Alors vous prenez un papier et un crayon, et vous écrivez toutes les peurs qui vous passent par la tête. Et vous évaluez leur intensité de 0 à 10. Donc 0, il n'y a pas de peur. Et 10, c'est une peur maximum.
Donc là, dans le cadre de la conférence, on va se concentrer sur les peurs liées à la maladie, liées au cancer.
Les peurs liées au cancer.
Ouais.
Voilà, ce qui vient à l'esprit immédiatement.
Mais bien sûr, vous pourrez refaire l'exercice pour n'importe quel sujet.
Oui, oui. Ensuite, vous scannez votre corps de la tête aux pieds pour trouver l'énergie de la peur. Notez s'il y a une sensation physique particulière, comme par exemple la sensation d'avoir un glaçon dans le ventre. Et vous traitez chaque peur en EFT en commençant par la peur la plus intense. Donc, quelques exemples de peur. Évidemment, la peur de mourir, la peur de souffrir, d'être opéré, la peur des effets secondaires des traitements, la peur des résultats, etc.
Oui, effectivement. La peur du diagnostic, par exemple, ça peut être un traumatisme psychologique à lui tout seul. En 2013, Christine Dizan avait fait une excellente conférence à ce sujet et vous pourrez la retrouver sur le site.
Oui, oui. Et il est important de libérer toutes les émotions qui sont associées à cette scène qui est traumatisante. Hein? Consultez cette conférence et sachez que vous pourrez aussi utiliser le bonus pour le faire.
Ah, qu'est-ce que c'est ton bonus, Julien? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots?
Oui. Alors le bonus, c'est un outil pratique. Donc j'ai enregistré en studio une séance d'EFT dans laquelle je vous guide pour traiter tous vos mauvais souvenirs. Donc, c'est un fichier audio MP3 qui mixe l'EFT et des techniques de méditation. Vous pourrez le mettre dans votre téléphone portable ou baladeur MP3 et l'écouter partout. Hein. Écoutez-le une fois par jour, par exemple, pour faire la procédure de paix personnelle.
Donc, tu nous as fabriqué, en fait, la brosse à dents émotionnelle.
Exactement.
Ouah, c'est génial.
Je suis dentiste aussi.
Ouais, merci, c'est un beau cadeau. Donc, ça, c'est le bonus que Julien contribue au pack des enregistrements du congrès 2015. Ok, alors effectivement, tu parles de la procédure de paix personnelle. On va peut-être rappeler brièvement que c'est le principe de faire la liste de tous les événements qui ont pu être créer un stress, un traumatisme, petits et grands, qui vous ont dérangé au cours de votre vie. Et ensuite, on va appliquer l'EFT événement par événement de façon systématique. Et avec un peu d'assiduité, on peut ainsi déraciner chaque arbre négatif de notre forêt émotionnelle. Et ça va éliminer beaucoup de causes majeures à toutes sortes de problèmes émotionnels et physiques.
Exactement. Donc ensuite, il s'agit de travailler la scène choc, celle qui a pris le sujet par surprise et pour laquelle un sentiment d'impuissance a pu apparaître.
Mm-hmm.
Alors pour la trouver, on peut poser la question suivante. Vous rappelez-vous d'un événement qui vous a pris par surprise, qui vous a paru insurmontable et dont vous avez peu parlé dans les 12 derniers mois?
Donc il faut se scruter un peu parce qu'on n'en a pas parlé, on l'a peut-être évacué.
Ouais, il faut...
Enfin, pas évacué justement, plutôt enfoui.
Ouais, il faut regarder à l'intérieur. Ouais.
Mm-hmm.
Donc je vous donne un exemple de scène choc. Une dame, grand-mère, apprend de la bouche de ses petites filles que leurs parents divorcent et qu'elles vont quitter la France et aller vivre dans un pays étranger. Donc la scène se passe à la sortie d'une boulangerie et prend complètement par surprise la personne, hein, la laissant sous le choc, évidemment. Car évidemment aussi, la dame adore ses petites filles. Donc ici, la personne se sent incapable de supporter ce stress, et très important, elle n'exprimera pas ce qu'elle ressent. Donc voici le genre de scène choc à rechercher et à traiter. Alors ensuite, une fois que c'est fait, recherchez des scènes similaires dans la vie du patient, comme des répétitions. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'émotion dans votre passé? Y a-t-il des scènes qui pourraient y ressembler? Et si oui, traitez chaque image ou souvenir, et vous verrez que les scènes sont cycliques, et que la recherche vous amènera souvent sur des scènes clés dans l'enfance. Alors une autre façon de récupérer des informations, des scènes à traiter, c'est de poser la question suivante. Qu'est-ce que ce cancer m'empêche de faire? Il m'empêche de parler, de voir, de digérer, de supporter? Alors si la réponse est de supporter, vous prenez une feuille et un stylo, et vous inscrivez tout ce que vous n'arrivez pas à supporter dans votre vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous écrivez un titre pour chaque événement et indiquez à droite l'intensité émotionnelle de 0 à 10. Et vous traitez un événement par jour en EFT. Nous avons vu que les personnes qui expriment peu leurs émotions ont un risque de développer un cancer plus élevé par rapport à ceux qui expriment leurs émotions. Mais pourquoi ces personnes n'expriment pas leurs émotions? C'est un sujet à creuser, ça. Et souvent, c'est par peur. La peur d'être rejeté, d'être critiqué, moqué, de se faire gronder, qui vient souvent de l'enfance. Et il sera intéressant, là aussi, de rechercher des souvenirs clés, hein, et de traiter les peurs qui ont fait naître ce comportement.
Donc, procédure de paix personnelle,
ouais,
remonter, exactement. Faire le ménage.
Mmh.
Très bien. Alors, je crois que tu nous as réservé un exercice à pratiquer tous ensemble.
Oui.
Alors, qu'allons-nous libérer?
Alors, il vise à libérer la croyance personnelle et collective que l'on ne peut rien faire contre le cancer.
L'impuissance.
Voilà. De passer d'un mode victime à un mode responsable. Alors, je précise tout de suite le sens du mot responsable. C'est responsable dans le sens responsibility ou capacité d'agir en anglais. Capacité d'agir. Il ne s'agit pas de culpabiliser les patients, mais au contraire de les encourager à agir.
Vous êtes responsable, ça veut dire que vous avez un pouvoir sur la situation.
Vous êtes capable
d'agir. Ça
veut pas
dire que vous êtes coupable, vous n'avez pas créé ça.
Exactement.
Très bien. Alors, occupons-nous de la croyance « je ne peux rien faire contre le cancer ». Et tous les auditeurs vont le faire avec nous, bien sûr. Donc, notez pour vous combien vous vous sentez concerné personnellement et aussi, comme tu disais, c'est aussi une croyance collective. Beaucoup de gens ont peur du cancer parce qu'on a l'impression que c'est forcément la fin. On se sent impuissant par rapport à ça, effectivement.
Ouais. OK, donc allons-y. Munissez-vous de la fiche EFT où se trouvent les points que je vais citer. Donc,
effectivement, les tapotes, vous commencez à bien connaître.
Par cœur.
OK.
Donc, stimulez le point karaté. Alors, et répétez les phrases dans votre tête ou oralement. Même si je me sens impuissant face au cancer.
Je me sens impuissante face au cancer.
Oui. Et que je pense que je ne peux rien faire.
Et que je pense que je ne peux rien faire.
Je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Alors, restez sur le point karaté. Même si je me dis que le cancer est incontrôlable.
Même si je me dis que le cancer est incontrôlable.
Je m'accepte comme je suis.
Je m'accepte comme je suis.
Stimulez encore le point karaté. Même si je me sens impuissant face au cancer.
Même si je me sens impuissante face au cancer.
Je m'accepte comme je suis.
Je m'accepte comme je suis.
OK. Stimulez le sommet de la tête. Le cancer est incontrôlable.
Le cancer est incontrôlable.
Le début des sourcils. Je suis impuissant.
Je suis impuissante.
Le coin des yeux. Je ne peux rien faire.
Je ne peux rien faire.
Sous les yeux. Je ne peux rien faire pour l'arrêter.
Je ne peux rien faire pour l'arrêter.
Sous le nez. C'est inéluctable.
C'est inéluctable.
Creux du menton. Je n'ai aucun contrôle.
Je n'ai aucun contrôle.
Sous la clavicule. Personnellement, je ne peux rien faire contre le cancer.
Personnellement, je ne peux rien faire contre le cancer.
Sous les seins. C'est bien naturel que je pense cela.
Et c'est bien naturel que je pense ça.
Sous les bras. Je permets à cette croyance d'exister dans mon corps.
Je permets à cette croyance d'exister dans mon corps.
On stimule le pouce. Je permets à cette croyance d'exister.
Je permets à cette croyance d'exister.
Index. Mais d'après les recherches en épigénétique, l'environnement contrôle les cellules.
Mais d'après les recherches en épigénétique, l'environnement contrôle les cellules.
Le majeur. Or, je peux modifier mon environnement.
Or, je peux modifier mon environnement.
Auriculaire. Je peux détoxiquer mon environnement émotionnel et physique.
Je peux détoxiquer mon environnement émotionnel et physique.
Stimuler le dos de la main sur le point de gamme. En fait, je peux faire quelque chose.
En fait, je peux faire quelque chose.
Point karaté. En fait, j'ai une part de contrôle.
En fait, j'ai une part de contrôle.
Sommet de la tête. J'ai le pouvoir de modifier les informations qui sont présentes dans mon environnement.
J'ai le pouvoir de modifier les informations qui sont présentes dans mon environnement.
Début des sourcils. Je peux agir sur mon environnement.
Je peux agir sur mon environnement.
Coin des yeux. Et si j'améliorais mon environnement?
Et si j'améliorais mon environnement?
Sous les yeux. J'ai ce pouvoir.
J'ai ce pouvoir.
Sous le nez. Je ne peux rien faire pour moi, je suis victime.
Je ne peux rien faire pour moi, je suis victime.
Creux du menton. Et si au contraire je pouvais agir?
Et si au contraire je pouvais agir?
Sous la clavicule. Et si je m'y mettais?
Et si je m'y mettais?
Sous les seins. Et si je passais à l'action?
Et si je passais à l'action?
C'est sur le pouce. Et si je commençais par libérer toute la colère, le ressentiment, la peur, etc. de mon corps?
Et si je commençais par libérer toutes les colères, les ressentiments, les peurs de tout mon corps?
Index. En plus, ça tombe bien, maintenant je connais un outil pour le faire.
Ah, en plus, ça tombe bien, maintenant j'ai un outil pour le faire.
Majeur. Tiens, j'ai bien fait d'écouter le congrès virtuel de l'EFT.
Ah, tiens, j'ai bien fait d'écouter le congrès virtuel de l'EFT.
Auriculaire. Je peux faire quelque chose pour moi.
Je peux faire quelque chose pour moi.
Ouais. Point de gamme, au dos de la main. Alors, restez quelques secondes sur ce point. J'ai du pouvoir.
J'ai du pouvoir.
J'ai une part de contrôle.
J'ai une part de contrôle.
Les émotions désagréables ne me profitent pas.
Les émotions désagréables ne me profitent pas.
Donc, je vais les laisser aller en pratiquant l'EFT.
Non, je vais les laisser s'en aller en pratiquant l'EFT.
Et je me réjouis d'agir pour ma santé maintenant.
Je me réjouis d'agir pour ma santé maintenant.
Ok, point karaté. Même si je pense que je ne peux rien faire contre le cancer.
Même si je pense que je ne peux rien faire contre le cancer.
La réalité, c'est que je peux modifier mon environnement.
La réalité, c'est que je peux modifier mon environnement.
J'ai ce pouvoir.
J'ai ce pouvoir.
Je peux agir.
Je peux agir.
Et je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Et je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Ok. Inspirez par vos deux narines, en gonflant votre abdomen. Et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Voilà.
Ah, c'est donc, bon.
Ouais. C'est bon de respirer.
Ouais.
Donc, en complément du traitement conventionnel, chacun peut agir positivement sur son environnement émotionnel.
Tout à fait. Donc, action, action, action.
Action.
Effectivement, le cancer, ça peut être un choc, mais il y a des choses à faire. Ne restez pas les bras croisés. Agissez sur vous, sur nous, pour vous et pour nous tous. Alors, j'ai une question à propos de l'entourage qui est toujours touché directement par l'annonce de la maladie et c'est encore une difficulté à gérer sur le plan émotionnel. Et qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau?
Ben oui, pour l'entourage, les émotions désagréables sont aussi très présentes. Hein. J'en sais quelque chose pour être passé par là. Heureusement que je connaissais l'EFT pour m'aider à gérer mes émotions. Donc, évidemment, l'entourage aussi a peur. Ou alors, il peut être en colère, hein, avoir de la rage. Mais pourquoi lui? Tout ça, c'est naturel. Hein.
Ouais,
l'injustice, ouais. Mais imaginez un patient qui se voit déverser sur lui quantité de peur, de colère par l'entourage qui lui rend visite. Si vous voulez faire un beau cadeau et aider la personne, eh ben, travaillez sur vous. Hein, libérez vos propres peurs, vos colères, votre rage. Peut-être que vous connaissez le dicton, on n'est jamais assez malade pour aider les gens malades à se rétablir. Si vous voulez aider les autres, soyez vous-même en santé. Ben, c'est très vrai. Hein. Si vous êtes en paix, ben, la personne le ressentira et toute sa biologie en profitera.
Ouais.
Je me rappelle avoir appris l'EFT à une amie qui avait une leucémie. Et sa fille avait très peur pour elle. Hein, c'est naturel. Mais c'était bien plus que la patiente. Et cela l'a perturbée. Aussi, elle lui a appris l'EFT. Et elles ont fait des séances familiales à chaque fois que la peur pointait le bout de son nez. Chacune surveillant l'état émotionnel de l'autre. Et l'environnement familial est devenu bien plus relax et la patiente en a été la première bénéficiaire.
Oui, tout le monde en a certainement grandement bénéficié, oui. Ouais. Alors, quelle est la place de l'EFT dans la prévention du cancer, selon toi, Julien?
Ben, je rappelle l'étude qui a été publiée en 2013 qui montre que les individus qui n'expriment pas leurs émotions ont un risque de décès par cancer augmenté de 70%.
C'est énorme.
Ouais. Et de décès par infarctus du myocarde augmenté de 50%. Donc, si vous prenez l'habitude d'exprimer et de libérer vos émotions, bon, on peut penser logiquement que ce risque va diminuer. Je fais partie de l'Alliance pour l'amélioration globale de la santé. Et nous avons établi un protocole expérimental de prévention active du cancer dans lequel la libération émotionnelle avec l'EFT a une place de choix. Donc oui, pour moi, la libération émotionnelle a une place dans la prévention, encore une fois, active du cancer. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par le protocole, ils peuvent contacter l'Alliance. Et si vous êtes professionnel de la santé, bon, naturopathe, psychothérapeute, psychologue, médecin, etc., et souhaitez vous former au protocole, ben, n'hésitez pas à nous contacter aussi.
Le protocole de formation à cet accompagnement de cancer.
Hein. Exactement. Ouais. Ouais. Nous allons proposer une formation spécifique cancer et EFT au sein de l'Alliance avec Jean-Michel Guret, moi-même et une excellente équipe de professionnels spécialisés. Et l'idée, c'est de s'occuper des émotions de matière systématique dans la prise en charge du cancer.
Ouais.
Parce qu'un être humain ne se résume pas à un tas de cellules. Hein, c'est aussi une activité mentale, une activité émotionnelle, un ego, etc.
Alors oui, je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont très intéressées par ce parcours. Et merci de le faire connaître parce que c'est vraiment important de faire bouger les choses dans ce domaine. Donc, bravo toi. Et juste merci. Avant de répondre aux questions de nos auditeurs, est-ce que tu as un mot pour conclure, Julien?
Oui, je voudrais citer une phrase que j'ai affichée au-dessus de mon bureau. Et je la relis régulièrement lorsque mon activité mentale se perd dans les études, les statistiques, etc. Donc la voici. Donc, il y aura toujours un abîme entre l'étudiant et l'amoureux. Le premier cherche ce qui est hors de lui et accumule. Le second ne peut chercher ce qu'il a déjà trouvé. Car de toute éternité, il est dit que l'amour est la connaissance.
Mmh. Voilà. Ben merci beaucoup à toi, Julien, pour tout l'amour et toute la connaissance que tu as partagée.
Merci à vous pour l'invitation. Merci à tout le monde.
Et on se retrouve tout de suite dans le chat pour les questions. Prépare-toi.
Tout de suite.
Il va y en avoir.
Allons-y.
Voilà, voilà. Posez vos questions à Julien. Allez. C'est parti pour les questions, il y en a pas mal, on va voir ce à quoi Julien peut répondre. Julien, je rouvre ta ligne pour que tu sois de nouveau avec nous. Vas-y.
Je suis là, vous m'entendez?
Ouais, c'est parfaitement.
Parfait.
Bon.
Alors, première question, est-ce qu'on peut faire des séances avec toi?
Non, on ne peut pas faire de séances avec moi.
Oui, c'était juste une première question pour fixer le cadre.
Ouais. On peut pas faire de séance avec moi parce que je n'ai pas de cabinet. Je travaille en clinique psychiatrique à mi-temps et le reste du temps, je fais de la recherche. Non, c'est pas possible. Vous pouvez trouver plein de professionnels qui sont formés à l'EFT en demandant au congrès, en demandant à l'IFPEC.
Oui,
exactement.
Hein? D'autres praticiens à l'EFT peuvent suivre ces conseils pour traiter une personne qui a des problèmes de cancer.
Voilà, et c'est vrai que tu travailles avec Jean-Michel Guret, vous faites de la recherche ensemble, c'est ça?
Oui, on fait de la recherche pour apporter une preuve irréfutable du lien entre un choc émotionnel brutal et non exprimé et le développement d'un cancer. Pour l'instant, on a des données qui sont des données, on va dire, d'observation. Mm-hmm. Et pour convaincre les cancérologues et la médecine conventionnelle. Conventionnel, ouais. Il faut un niveau de preuve qui soit plus élevé que ça.
Oui.
Donc on est en train de, avec notre groupe de recherche, on va travailler mi-juillet à une réunion pour mettre en place une étude à l'INSERM, peut-être à Montpellier, pour apporter une validation définitive, même s'il y a quand même énormément de données qui aujourd'hui
Pousse dans ce sens
et font que ça serait quand même une perte de chance, je pense, de pas traiter les émotions dans un cancer.
Ouais.
C'est mon expérience personnelle. Mm-hmm. Je sais que c'est pas une preuve, mais c'est quand même après on a ça sous les on a on a les exemples sous les yeux, on ne peut pas nier la réalité, quoi.
C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que ça doit être un travail énorme que de mettre tout ça en chiffres, en graphiques, hein, et en études documentées. C'est un autre
Ouais,
travail.
c'est il faut une équipe, mais on a une bonne équipe là. Moi, je suis super confiant. Donc,
Ouais, super. En tout cas, merci pour
ça va se faire.
tout ce travail.
Avec plaisir, hein. Ouais.
Alors, c'est justement la question de Valérie. Coucou Valérie, au passage, est-ce qu'on peut déclencher un cancer suite à un événement brutal en quelques mois?
Bah, clairement, oui, hein, ce que je viens de dire. Dans la conférence, il y a une étude française hein, que j'ai citée dans la conférence qui montre qu'un événement, alors c'est très précis, hein, c'est un événement de vie brutal, donc la personne ne s'y attend pas, ça la
Oui.
prend complètement par surprise,
Oui.
et elle n'a pas les capacités, si vous voulez, c'est un obstacle qui est beaucoup trop grand, elle n'a pas les capacités de franchir l'épreuve, ou elle le pense en tout cas,
En tout cas, les
et
pensées. Ouais.
en tout cas elle le pense, et surtout, elle n'en parle pas. Donc,
D'accord, c'est
on
vécu dans
garde.
le silence.
Comment?
C'est vécu dans le silence et
Ah, c'est ça.
l'isolement, c'est ça?
Voilà. Complètement. Complètement. C'est complètement réprimé. Donc, voilà. C'est ce genre d'événement qui. On parle l'étude française sur les tumeurs du cerveau. C'est
Donc
quand même
si
un
on
argument
ah, c'est un
important.
argument énorme. Si on a un choc brutal, quand ça arrive, on se sent complètement impuissant, qu'on le vit dans l'isolement et qu'on n'en parle pas, méfiance.
Ouais, méfiance, ouais,
À ce
c'est
moment-là,
pour moi c'est vraiment un facteur de risque majeur.
c'est un facteur de risque énorme. Il y a Victor qui nous dit, je suis médecin et ce type d'enseignement mériterait d'être entendu en faculté de médecine. Vivement la révolution culturelle médicale et merci à Julien.
On ne demande que ça.
Ben Victor, voilà, un des premiers pas, c'est ce congrès où on essaie de toucher le maximum de gens chaque année pour apporter un peu de l'eau au moulin à travers l'EFT, certes, mais est plus vaste que ça.
Victor, il est le bienvenu à l'Alliance. Parce que, oui, on a besoin d'avoir des médecins, déjà quelques-uns, mais on a besoin, et je sais qu'ils sont nombreux hein, à le penser, peut-être pas tout haut, mais rejoignez-nous et on va créer des études, on veut mettre ça sur le tapis parce que c'est majeur.
Eh bien, c'est le moment de donner
Le site de l'Alliance.
le site de l'Alliance où si tu as un blog,
Alors,
ton si tu as un site, des coordonnées, une adresse email.
rejoignez-moi d'abord sur Facebook parce que le site de l'Alliance il sera en ligne mi-juin. On a eu un petit retard, mais tout sera prêt mi-juin.
Okay.
Sur Facebook, vous tapez Julien Drouin et vous allez tomber sur ce que j'ai mis sur le congrès.
Oui. Julien Drouin, je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce que
Oui,
je vais.
y a un profil perso, on va dire, et il y a ma page.
Est-ce que tu as une ville, par exemple, où le profil professionnel serait.
Une ville?
Oui, je ne sais pas.
Non, je vois
Pourquoi je te
qu'il y
remercie?
a
Si j'ai une
marqué
ville.
Ascension Santé
Ouais,
avec.
voilà. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok.
Ouais.
Donc sur Facebook, les amis, pour ceux qui n'ont pas de compte, ben
Pour
c'est
l'instant,
le
sur
choix.
Facebook, ouais. Sur Twitter aussi, c'est très rapide. Je publie régulièrement, au moins 5 fois par semaine, des études qui vont dans ce sens de l'impact des émotions sur la programmation de l'ADN et de l'impact aussi de l'alimentation, de l'impact de tout notre environnement sur la programmation de l'ADN.
Très bien. Je te cherche une question. Tu as trouvé Maria?
Oui, il y avait une question. Comment utiliser l'EFT pour un cancer de l'endomètre? Sur quoi travailler pour un cancer de l'endomètre? C'est la question de Marie Espérance.
Qu'on a dit dans la conférence, d'abord, c'est travailler sur toutes les peurs du présent. Parce que ça, en général, quand on a un cancer, il y a une grosse, grosse. Enfin, la peur est partout. Très paralysant, on voit pas clair. Hein, vraiment, on voit pas clair. Donc, il faut essayer. Je sais que c'est difficile, mais il faut essayer de libérer cette espèce de brouillard dans lequel on est pour y voir clair et pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir réfléchir et passer à une autre étape. Et l'autre étape, ça serait de se poser la question, est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel dont on vient de parler là? Moi, un an avant le diagnostic. Et si oui, le traiter avec l'EFT. Vous pouvez utiliser le bonus. Je vous conseille vivement, en cas de cancer, de faire appel à un professionnel de l'EFT, quelqu'un qui est formé, parce que c'est particulier. Et puis, bon, comme je disais dans la conférence, ça demande un travail sur soi qui est plutôt intense. Hein.
Oui, ça peut être un grand nettoyage.
Ouais, vraiment nettoyer, libérer. Ça prend du temps. Des fois, c'est pénible. Hein. C'est pas une médecine douce.
D'accord.
Quand on parle de ce genre de, en général, de ce genre de traumatisme. Hein.
Oui.
Mais par contre, c'est très très puissant. C'est très puissant. Donc dans le cancer de l'endomètre, je vais pas faire de, vous savez, tel type de cancer est dû à tel type d'émotion.
Oui.
Ça, je rentre pas là-dedans. Parce que en fait, je pense que c'est le patient qui sait le mieux.
Oui.
C'est le patient. En plus, j'aime pas tellement ce terme.
Le client, la personne.
Non, l'individu, quoi. Mm-hmm. Celui qui est capable d'agir.
Hein, oui.
Lui, il le sait. Vous mettez 30 secondes en méditation. Vous demandez à votre esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et vous allez voir que souvent ça vient. Ou alors vous faites des rondes de EFT. Vous faites des rondes de EFT, même si je sais pas d'où vient mon cancer, etc. Et vous allez voir qu'il y a des informations qui arrivent.
Hein. D'accord. Donc, pour interroger en se disant quelles pourraient être les origines et les causes de ce cancer, et on stimule les points.
Oui, on peut faire sur le point karaté, et on commence comme ça, on dit, même si je ne sais pas du tout d'où vient ce cancer, je m'accepte comme je suis. Et puis, vous répétez sur les différents points. Je ne sais pas d'où vient ce cancer, j'ai aucune idée. Et voyez, peut-être qu'il y a des informations qui peuvent venir. Hein. Vous voyez ?
Oui, tout à fait.
Je veux pas tomber dans le... Je trouve que c'est un piège. Quand il y a quelqu'un qui vient voir quelqu'un qui fait de l'EFT ou autre, une autre technique, c'est de dire, ah, vous avez tel cancer, et ben c'est parce que vous êtes en conflit avec votre mère, etc. Enfin, c'est un peu... Si on se manque, c'est bizarre quand même.
Oui. Il y a une question dans ce sens dans le chat au sujet de la médecine du docteur Hammer qui justement avait mis en lien telle maladie avec telle pathologie, enfin l'endroit, tu sais, où du corps, si vous avez mal au genou, c'est parce que nanana, si c'est l'épaule droite, c'est pas ça, etc. Donc...
J'ai lu les livres du docteur Hammer, mais par contre je suis pas un spécialiste de Hammer, donc je vous répondrai pas.
Ouais.
Et je trouve, enfin, comme je mets le patient vraiment au centre de du travail, hein, c'est lui qui agit, c'est lui qui sait finalement. J'allais dire c'est à lui de le trouver.
D'accord.
Oui.
D'accord. Toi, tu ne te sers pas de ce type de livre, de ce type de
jamais.
Support.
Non.
Jamais. Tu te centres sur le client, tu le questionnes.
C'est lui qui connaît l'histoire et son corps.
Ben, j'ai pas de client, mais quand j'ai discuté avec des amis, en fait, on a la réponse.
D'accord.
Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel, un stress brutal? Vous reprenez les termes. Est-ce que tu as eu un stress brutal qui t'a paru insurmontable et dont tu as parlé à personne 6 mois, un an avant le diagnostic? Voilà. Posez cette question à tous les gens qui ont un cancer et voyez la réponse.
Ok.
Ok.
Jean-Marie nous pose une question, te pose une question. N'y a-t-il pas de risque de réveiller des souvenirs douloureux enfouis en nous à force de faire de l'EFT pour aider les autres? Qu'est-ce que tu penserais de ça?
Enfouis
en nous.
C'est-à-dire le thérapeute?
Oui, c'est du point de vue du thérapeute. N'y a-t-il pas un risque de réveiller des souvenirs douloureux enfouis
en nous
à force
d'accord.
de faire de l'EFT pour aider les autres?
Ben, en fait, vous les libérez en même temps. Hein. Vous libérez... Après, la question, c'est est-ce que vous voulez garder... C'est un choix. Là, c'est un choix conscient. Est-ce que vous voulez garder tous vos traumatismes enfouis? Il n'y a aucun jugement, hein, mais là, c'est un choix. Oui ou non. Vu ce que je viens d'expliquer, c'est quand même... C'est pas inactif. Hein. Le fait de rester avec des émotions réprimées dans son corps, c'est la carafe qui se remplit petit à petit. Ok.
Donc ça serait pas ton choix.
Non, c'est pas mon choix, non. Non, parce que. Alors, avant de faire de l'EFT avec quelqu'un, avec des patients, avec des clients. C'est un peu le créneau de l'IFPEC. C'est d'abord de travailler sur soi
Ouais.
et de libérer tout ce qu'on a à l'intérieur avant de s'occuper des autres.
C'est ça.
Hein? Parce qu'on est d'autant plus fort, je trouve, quand on
Et
est
puis,
nous-mêmes. Ouais.
c'est vrai que nos patients font comme un effet miroir quand ils travaillent sur une problématique et que cette problématique, on a eu à la traverser, si on l'a pas résolue, ça réveille quand même en nous des émotions, des sensations, on est connecté à nos
Bien
choses
sûr.
qui sont enfouies, justement. Et ça demande d'être nettoyé, de faire un travail, de pratiquer l'EFT sur soi, ce qui semble tout à fait logique. Et au contraire, je trouve que c'est effectivement aidant et ça nous booste
Ben,
tellement.
il y a un double bénéfice, hein, pour le patient et je trouve pour le thérapeute, hein.
Voilà. Sauf que si on a envie de laisser des choses enfouies, c'est très inconfortable. On peut pas parce que c'est vraiment devant notre nez.
Ah oui, ça c'est. Ouais. C'est pour ça que faire la procédure de paix personnelle, c'est vraiment intéressant. Hein.
Ouais,
C'est
tout à
vraiment
fait.
intéressant parce qu'après, moi, comme je travaille en clinique psychiatrique, je travaille avec des gens qui ont des traumatismes. Bon, quand ils vous racontent quoi, il y a de quoi s'enfuir, quoi. Mais petit à petit, le fait d'avoir, moi, je dis pas que je dis pas que j'ai fini de libérer tout ce que j'ai à libérer, mais si vous voulez, ça fait plus résonner en nous des tristesses ou des colères. Donc on arrive avec des gens qui nous racontent toute leur misère, mais on n'est pas touché. C'est une forme de protection, en fait.
Très bien. Il y a un stage, je crois que Jean-Michel nous a parlé de ça à la conférence juste avant toi. Il y a un stage qui va être organisé dans lequel tu vas être présent.
Alors, on organise avec l'IFPEC un stage EFT et cancer pendant une journée. Ça sera le 9 septembre dans le sud de la France. Donc, venez nous voir au soleil. Et on va développer tous ces points-là, toute cette prise en charge assez spécifique de l'EFT dans le cancer, que ce soit l'annonce du diagnostic, que ce soit le choc émotionnel qui a pu avoir lieu avant le diagnostic. Et aussi cette espèce de caractère, même si j'aime pas trop le terme, mais de tendance à réprimer ses émotions et à pas dire ce qu'on pense, à tout garder pour soi. Okay? On va
D'accord.
travailler sur ça aussi. Donc ça sera dans une grande salle à Marseille. Et tous les gens qui veulent agir sur leurs émotions en lien avec un cancer, donc ça peut être des gens qui ont un cancer ou des gens qui accompagnent des gens qui ont un cancer. Et même le grand public, hein, sont invités à nous rejoindre le 9 septembre, donc
D'accord.
à Marseille. Et pour le congrès,
Oui.
on fait une promotion de 15% sur le prix. Enfin, c'est pas moi, c'est l'IFPEC qui fait une promotion de 15% sur le tarif de la
Génial.
journée, dont je sais absolument pas le prix.
Ouais. Écoute, merci Julien, c'était pas prévu, c'est un beau cadeau que tu fais
Ben,
là.
de rien.
On
Avec
va leur
plaisir.
raconter.
Et merci aussi à Jean-Michel qui
Merci
nous
à
écoute.
l'IFPEC, merci.
Ouais,
Ce qui
ouais.
est intéressant, c'est que c'est ouvert à des patients, comme tu dis, il y a des praticiens.
Ouais, c'est vraiment grand public. Et le message qu'on essaie de faire passer avec l'IFPEC et avec l'Alliance, c'est directement aux patients, aux individus. Hein,
D'accord.
voilà, c'est direct. Parce que je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais là, j'ai un cancer. Mon cancérologue, il m'a jamais dit de faire, il m'a jamais parlé des émotions. Mais c'est peut-être un peu choquant, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas son problème. Ça, c'est pas sa spécialité. C'est pas son. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?
Ouais.
C'est des gens qui sont très bons dans leur domaine, dans la chirurgie, la chimie ou la radiothérapie, mais ils peuvent pas vous aider sur ce plan-là. Donc c'est à vous de faire le travail. Oui. C'est à vous
Oui.
d'agir. C'est à vous d'agir. C'est un peu
J'ai
fort ce que
discuté.
je dis, mais
Oui, mais
vous comprenez?
c'est vraiment ça, c'est que ils n'ont pas du tout une spécialité en émotion, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas Il faut que le client, le patient arrive à compléter ses soins avec d'autres choses parce que c'est pas suffisant. J'ai discuté avec une personne qui avait été opérée d'un cancer, un cancer du sein, et elle allait participer à des groupes de parole. Et elle a rencontré l'EFT et elle disait, mais dans ces groupes de parole, ça serait génial s'il y avait de l'EFT parce que ça manque cruellement. Les femmes parlent de comment elles ont vécu leur opération, de leurs difficultés d'après l'opération, mais sans EFT, elle me dit, j'aurais l'EFT, ça serait beaucoup plus rapide. Est-ce que tu as des retours, toi, sur ce genre de travail après l'opération?
En EFT?
En EFT, oui.
Non, pour l'instant, mais c'est ça qui est super bien avec l'EFT, c'est que tout reste à faire et tous les gens qui sont motivés, qui veulent créer proposer des centres de dialogue avec l'EFT après le cancer, créer dans les villes, n'attendons pas quoi.
Ouais, il y a tout à faire, il y a beaucoup à faire.
Il y a tout à faire, voilà. Okay. Agissons, pareil, nous aussi, hein, les gens qui n'ont pas le cancer. Agissons pour d'abord sur nous, puis après en aidant les autres. Ouais. C'est un beau projet. C'est des beaux projets à développer, ça.
Il y a beaucoup à faire et il y a tellement de gens qui sont touchés par cette maladie.
Ah ben oui, aujourd'hui c'est 1/2, voire 1/3, donc il faut agir. Hein.
Ouais. Julien, tu cherchais un mot tout à l'heure pour parler de cette personne qui vient consulter, cette personne qui veut nettoyer ses mémoires pour retrouver la santé. Et il y a un commentaire de MPL88 qui marque « Devenir acteur de sa santé, devenir un axien et non plus simplement un patient ». Voilà, il y a le mot.
Ouais. Moi, j'avais « axien », c'est bien. C'est super bien. Moi, j'avais pensé à « actant ».
Oui,
« actant ». C'est pas actif et patient. C'est pour ça que j'aime pas du tout le mot « patient », parce que « patient », c'est… c'est une espèce de croyance collective, je sais pas, une programmation collective. Voilà, j'attends sur ma chaise que le médecin me dise quoi faire, c'est lui qui va me sauver.
Ouais. Alors, une question importante de Liline, qui a entendu dans une formation qu'il ne fallait pas faire de l'EFT avec des personnes malades de cancer.
Oui.
Non, qu'il ne fallait pas utiliser le point
l'EFT
sensible.
Ou le point sensible, voilà. Donc, elle nous demande... Donc, il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de l'EFT en cas de cancer. Merci pour votre réponse.
Ça dépend de où se situe le cancer. C'est sûr que si vous avez un cancer qui est près d'un point EFT, évidemment, évitez. Hein.
Pour éviter de tapoter sur ce point.
Mais on peut éviter d'autres. Mais par contre, l'EFT dans le cancer, c'est un super outil. Hein.
D'accord. Donc ça serait plutôt. Tout à l'heure, Jean-Michel a parlé du point sensible et de faire attention de parce que ce point sensible, c'est un point neurolymphatique qui fait bouger la lymphe et que dans certains cancers, il était préférable de pas trop faire bouger la lymphe. Donc il y a peut-être ce point-là à éviter en cas de cancer, mais stimuler le point karaté et faire des rondes de EFT.
En dehors de ce point-là, aucun problème.
Aucun problème.
Non. Non, non. Aucun problème.
Je regarde d'autres questions. Je ne sais pas si tu as le chat devant les yeux.
Alors.
Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a assez peu de questions, en fin de compte. Les gens commentent, voilà.
Il y a quelqu'un qui dit, c'est Steph35. Vous disiez, cesser de vivre pour les autres et vivre pour soi. Est-ce que l'égoïsme est salvateur?
Alors,
c'est une très bonne question. Je crois que l'égoïsme dans l'esprit des gens, c'est quelque chose d'assez négatif. Mais il y a des gens, et je crois que on va en avoir de plus en plus avec l'EFT, qui ont des égos sains. C'est-à-dire qu'on peut, très bien vivre pour soi, sans pour autant gêner les autres.
Et sans pour autant laisser tomber les autres.
Oui. Dire, voilà, ça fait partie de la programmation. Dire ce qu'on pense, c'est pas être égoïste.
Et penser
à soi. Dire ce qu'on ressent, c'est quand même... On a le droit. On a le droit d'avoir... Enfin, on est des êtres humains, on pense, on a des émotions et on a le droit de regarder les enfants. Hein. On a le droit de les exprimer. L'exemple, c'est les enfants. Les enfants, ils ont une émotion, ils l'expriment. Est-ce que c'est des égoïstes dans le sens négatif du terme?
En fait, il y a de la place pour tout le monde.
Bien sûr.
Pour le soignant, hein, pour le soigné, pour chacun, pour chacun des égaux, même.
Ouais, ouais. Oui, il y a des avoir développer un ego sain, hein, ça se fait bien avec l'EFT, ça se fait bien. Ouais. Donc oui, vivre pour soi, oui, on a le droit. Vivre pour soi, développer ses talents, développer ses. Voilà.
Se redonner la liberté de vivre et de se repositionner au bon endroit, c'est-à-dire ni trop en avant ni trop en arrière.
Oui, parce que les gens qui ont un cancer, ils expriment rien. Ouais. Donc c'est un ego pathologique, mais dans le sens pathologique, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est dans le sens inverse. Ouais. Ouais. Faut arriver à trouver un équilibre.
Alors, bien sûr, nous soulignons que l'EFT est là en complément. Et Odiane pose la question, comment utiliser l'EFT par rapport aux effets secondaires des médicaments allopathiques, enfin des traitements liés au cancer, je suppose. Quelle est ton expérience par rapport à ça, Julien?
Ben, je dirais que par rapport aux effets secondaires des médicaments, je n'ai pas d'expérience dessus.
Non, je pense notamment à la chimiothérapie qui peut parfois donner de la fatigue, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut soulager ces symptômes avec l'EFT?
Je pense que par rapport à la chimiothérapie, l'intérêt de l'EFT, peut-être avant de la commencer, c'est parce qu'il y a il y a vraiment énormément de peur par rapport à la chimiothérapie, hein, ce qui est évidemment normal. La peur, toujours, hein, on en revient à la liste des peurs, la peur de perdre ses cheveux, la peur de... Ouais, les peurs s'accumulent. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser l'EFT pour libérer. Ensuite, sur la fatigue, j'ai pas d'expérience, mais pourquoi pas essayez, testez, voyez ce que ça vous fait. Si vous sentez que ça vous fait du bien, continuez.
De toute façon, on peut dire sans trop se tromper que l'EFT aide à tout ce qui est émotionnellement perturbant, la peur, la colère,
le ras-le-bol, beaucoup de ras-le-bol dans le cancer, hein, beaucoup de souvent, des fois c'est long, des fois c'est très long.
Ça peut être intéressant. J'avais accompagné une jeune femme qui s'était engagée pour faire de la chimiothérapie. Mm-hmm. Je me rappelle de deux séances difficiles sur la peur de perdre des cheveux. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup de choses focalisées là-dedans, où la peur était immense, le rejet, le refus, l'impuissance, la colère. On avait fait deux séances pas faciles émotionnellement. Je pense que derrière cette peur de perdre les cheveux, il y avait beaucoup d'autres choses.
Ouais, c'est la peur de perdre sa part de féminité aussi quand on se fait opérer du sein. Moi, j'avais un ami qui était jeune, hein, qui avait 14 ans. Et qui avait perdu ses cheveux, évidemment, avec le traitement, et qui me disait, moi, ce qui me gonfle le plus avec ça, c'est que on me prend pour un extraterrestre dans les cours d'école.
Ouais. Ouais.
Et donc le regard, la peur du regard, la peur d'être mis de côté, etc. Tout ça, c'est vraiment intéressant de le traiter parce que ça rajoute des couches vraiment très très intenses à des gens qui n'ont pas forcément besoin. Hein. Et c'est vrai que c'est lourd. Hein. Mais de toute façon, l'EFT et le cancer, c'est assez lourd. Hein. C'est lourd. Ouais. Mais ça apporte quand même un soulagement psychologique. Et un soulagement aussi sur le système nerveux automatique qui est vraiment génial.
Est-ce que tu as des... Alors, je vois quelqu'un qui dit toujours pas de réponse en ce qui concerne la maladie de Charcot, j'imagine. Mm-hmm. As-tu une expérience par rapport à l'UFT, la maladie de Charcot?
Aucune expérience. Non, je suis désolé, mais là, je peux pas vous répondre.
D'accord. On peut toujours dire travailler toutes les émotions qu'en ressent la personne par rapport à cette maladie, le désespoir.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Mais après, après, l'idée principale, c'est de créer un environnement, de se créer un environnement qui soit sain, pour maintenir une programmation de l'ADN qui soit favorable. Donc travaillez, faites la procédure de paix personnelle. Voilà. Tous les souvenirs qui vous embêtent depuis que vous êtes petit, vous les libérez. Voire vous allez plus loin. Hier soir, il y a une super conférence sur les mémoires prénatales. Travaillez sur les émotions, travaillez sur votre alimentation, sur votre environnement, sur plein de choses. Le tout, c'est d'agir. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Parce que j'ai pas d'expérience sur Manny de Charcot, malheureusement.
Oui, oui, oui. Bon. Ça arrive, Julien, ça arrive.
Moi, je suis très occupé avec la clinique en psychiatrie, parce que c'est vraiment intéressant de voir sur des patients qui ont des très, très gros traumatismes l'effet de l'EFT.
Comme quoi, par exemple, est-ce que tu peux nous citer?
Moi, j'avais une patiente qui était dépressive chronique, avec des symptômes psychotiques, qui avait 11 médicaments le jour où elle est venue à la clinique. Et au bout d'un an de EFT, trois fois par semaine, elle est ressortie avec un médicament, voire deux. Par contre, ce que je vous précise tout de suite, c'est que c'était la patiente la plus assidue au cours. C'est-à-dire, taper à la porte quand j'étais pas là, c'était la catastrophe. Hein. Elle m'en voulait pendant des semaines. Donc, pour vous dire, toujours pareil. Voilà, agir, ne pas attendre, travailler sur soi, et les résultats, souvent ils arrivent. La personne à féliciter, c'est vous, quoi, c'est celui qui agit.
Magnifique.
Ouais.
Alors Julien, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer les raisons, mais voilà, tu l'apprends à l'antenne en direct. Tu nous as envoyé deux personnes qui ont fait de merveilleux témoignages.
Oui.
Et malheureusement, nous avons eu quelques problèmes techniques. Mm-hmm. Je crois que vous allez pouvoir partager l'un de ces témoignages. Mm-hmm. Peut-être demain.
Peut-être demain. On a fait une vidéo interview.
Oui,
mm-hmm. Avec une personne qui parle justement de son expérience de la traversée du cancer. Mm-hmm. On ne vous en dit pas plus, mais la vidéo est prête. Si on peut la diffuser demain, on fait ça demain. Si mm-hmm. on ne peut pas demain, on fera ça après-demain. Si mm-hmm. on ne peut pas après-demain, on le fera de toute manière.
Dès qu'on pourra.
D'accord. Donc c'est la surprise.
L'objectif, c'est dans les 48 heures.
D'accord. Ouais. Bah, écoutez, je vais patienter. On va tous patienter.
Tu connais et la personne et l'histoire, donc c'est pas.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas pour le plus curieux, mais voilà, c'est dans les tuyaux.
Ouais.
S'il vous plaît, pouvez-vous nous redonner la référence du livre dont vous avez parlé?
Ah ben, je crois qu'il y en avait plus.
Il y en a plusieurs, les références. Tout ça, c'est. Il y a la conférence qui est en réécoute gratuite pendant 24 heures. Mmh. Vous nous laissez le temps de mettre cette conférence en réécoute. Il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, tranquillement, vous pouvez aller la réécouter, vous appuyez sur pause et vous pourrez prendre toutes les références. Parce que franchement, Julien, tu nous as vraiment fourni en référence et en.
Bah, c'est assez dense. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec les références scientifiques. Si vous voulez des références, n'hésitez pas, surtout s'il y a des médecins, des scientifiques qui écoutent, envoyez-moi un email julien.drouin. Faites sur Facebook, c'est plus simple. Vous me trouvez sur Facebook et.
Non, parce que
elle est compliquée, mon adresse.
Au congrès, vous pouvez répondre
à
quel site du congrès et on transmettra à Julien. Voilà, ouais. On va faire comme ça. Vous écrivez à la rédaction et nous transmettrons.
Je lisais beaucoup de personnes qui avaient une alimentation irréprochable. Bon, c'était le cas de mon père, hein, qui avait une alimentation irréprochable et qui malgré tout et qui faisait du yoga, qui faisait des efforts physiques, enfin des efforts physiques, de la course à pied. Mon père était marathonien. Il mangeait bio, beaucoup de fruits et légumes pour apporter des antioxydants, des enzymes, etc. Et il y a quand même un cancer qui se développe. Donc je vraiment aujourd'hui on peut c'est vraiment difficile, faut plus faire l'impasse sur le sur l'aspect choc émotionnel, hein.
Ouais.
J'ai eu tellement de dans mes recherches, j'ai eu tellement de contacts avec des gens, mais je comprends pas, je fais tout et, ouais, mais au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Et là, à chaque fois, quand on pose la question, on trouve plein de choses, quoi. C'est vrai aussi en psychiatrie, hein. En psychiatrie, c'est le nombre de déclenchements de schizophrénie après des chocs émotionnels. Voilà, simplement, il faut poser la question. Et voilà.
Oui, c'est ça. Avant l'alimentation, c'est peut-être pas avant, mais en même temps, en tout cas, ne pas.
Ouais, en même temps, il faut jouer sur tous les tableaux. Il faut jouer sur, il faut là.
Faut
L'aspect
pas
émotionnel.
minimiser.
Non, non, non.
Il faut
Ah
pas
non.
minimiser les chocs émotionnels.
Ah non, 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 non. C'est majeur. C'est majeur.
Fernande nous demande comment changer l'environnement de mes parents ou là leur faire changer. Ça, Fernande, c'est compliqué de faire changer les gens, hein.
Ça, si les gens, alors si j'ai bien appris quelque chose, c'est que si les gens veulent pas changer, vous pouvez rien y faire. Si vous pouvez, en fait, vous pouvez faire une chose, c'est traiter la colère et la frustration que ça crée chez vous avec l'EFT.
Tout à fait, c'est toujours la première chose à faire.
Ah ouais,
Nous
toujours
tous,
traiter. Ouais.
on a la question, comment je peux faire pour mon frère qui veut pas? Comment je peux faire pour quelqu'un qui est récalcitrant? Et voilà, vous pouvez amener le cheval à l'eau, mais vous pouvez pas le forcer à boire. Et si ça vous énerve d'avoir ce cheval-là qui veut pas boire, effectivement, vous pouvez déjà tapoter pour ça. Ce qui est intéressant,
Ouais.
c'est que les conférenciers ne se sont pas concertés. Pour certains,
Ouais.
ils se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés, mais ils ont tous la même réponse.
Et oui. Ça doit vouloir dire quelque chose.
Peut-être, hein? Ouais.
On vit dans un univers quantique aujourd'hui. On est tous
Oui.
connectés.
L'information est accessible instantanément à tout le monde. Tantôt en lumière, tantôt en ondes.
Mais parfois, c'est quand vous traitez par exemple votre colère que quelqu'un ne fasse pas ce que vous avez envie qu'il fasse, il y a des petits trucs intéressants qui se passent. Donc commencez par là.
Et observer le résultat.
Ouais, parce que si vous, et je sais que moi j'étais un peu comme ça au début, si vous forcez les gens en disant ah oh, regarde l'EFT c'est super, vous allez créer des résistances et l'effet sera inverse. Commencer par soi. Le changement commence par soi, comme on dit.
Oui.
C'est très vrai partout, mais surtout dans le cancer. Et c'est vrai que par contre, c'est vrai que c'est pénible, hein. J'en discutais cet après-midi avec une amie qui est médecin. Quand les gens, malgré le fait qu'on apporte des informations, etc., les gens ne veulent pas. Il faut travailler sur soi.
Oui, c'est ça.
Travailler sur
C'est
soi.
que parfois on saurait presque ce qu'il faudrait qu'ils fassent. En tout cas, il faudrait au moins qu'ils essaient l'EFT. Et on est là complètement impuissant avec des gens qui refusent tout net, qui veulent pas regarder, qui veulent pas changer des choses dans leur environnement. Et c'est leur choix. Mais ça peut nous laisser dans l'impuissance. Alors c'est vrai pour les thérapeutes, mais c'est vrai pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents qui ne veulent pas changer ci, pas changer ça. Et heureusement qu'on a rencontré l'EFT, c'est beaucoup plus facile à accepter. Enfin moi, ça a au moins changé ça dans ma vie, c'est que c'est beaucoup plus facile à accepter et je tapote et voilà, les choses, on lâche plus.
Oui, non, mais c'est vraiment important de travailler sur soi quand quelqu'un refuse un outil qu'on pense génial et qui c'est vrai qui est vraiment super intéressant. Mais voilà,
Ils n'en veulent pas.
plus on force, plus ça crée des résistances. Donc c'est pas la bonne voie.
C'est pas la même voie.
D'après mon expérience, après chacun fait ses expériences, mais voilà. Essayez de travailler la colère que vous avez la colère que vous avez, la frustration, et vous verrez que des fois il y a des choses un peu miraculeuses qui se passent.
Je regarde dans le chat.
Alors, il y a une question de Corinne. Comment convaincre les médecins? Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, hein, mais.
Exactement, ouais, c'est exactement. Ne cherchez pas à convaincre, hein, ça sert à. Parce que vous allez créer des résistances. Si vous pensez que je sais pas, si vous êtes thérapeute et que vous pensez que l'EFT c'est utile dans le cancer, n'attendez pas que les autres changent. Agissez-vous, hein. Faites un groupe dans une ville, paf, vous montez le truc, et vous verrez que les gens qui sont intéressés viendront. Et vu le succès du congrès, et vu l'essor que prend l'EFT, vous inquiétez pas, les gens viendront. Voilà.
Écoute, chaque année, le congrès a de plus en plus de gens qui viennent dessus, et c'est une information qui circule. Je pense qu'effectivement, on est au début d'un bel essor de cet outil. C'est un excellent outil, c'est une excellente façon d'en parler. Cette semaine-là, elle a lieu chaque année au mois de mai. Donc, une des façons peut-être d'intéresser les gens à l'EFT en leur disant, voilà, il y a des conférences, c'est gratuit, on donne juste l'info, les gens se connectent ou pas, ils peuvent tendre une oreille, il y a peut-être un sujet qui va plus les intéresser. Et c'est de l'information qui est offerte et gratuite pendant une semaine, et il y en a pour tous les goûts.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que avec ce congrès, vous permettez aux gens d'avoir un outil de diffuser l'information et de donner à ceux qui le souhaitent un outil qui permet d'agir sur l'environnement émotionnel. Ça, c'est très très puissant. Donc merci.
Merci à
d'organiser
toi.
Ce congrès. Hein.
Et merci à toi aussi, parce que sans eux, ça n'existerait pas.
Et c'est vraiment important d'avoir des représentants de tous les domaines d'utilisation de l'EFT.
C'est un travail d'équipe, complètement d'équipe.
Ouais, ouais.
Mais grand merci à toi de montrer que le monde médical se bouge aussi et qu'il y a des choses qui changent.
On a fait ce que tu as dit, Julie, on a créé un groupe dans notre ville et on a juste mis un micro, c'est tout.
Voilà.
Vous êtes forte. Est-ce que vous pouvez venir mettre un micro dans le sud de la France, s'il vous plaît?
Tu es devant.
Ouais.
Tu es devant.
Ouais, c'est vrai.
Génial.
Je regarde un peu.
Merci beaucoup. Est-ce que tu auras la possibilité d'ici demain soir d'aller répondre aux questions dans la page de réécoute?
Ouais.
Une fois ou deux, hein?
Oui, je vais répondre. Par contre, je répondrai pas aux questions précises parce que bon, c'est pas une consultation médicale et vraiment chaque cas est unique. Et il faut des informations, il faut vraiment une enquête précise, une enquête environnementale pour savoir exactement ce qui se passe.
Bien sûr. Après, si tu veux dans cette page mettre les liens du site de, j'ai déjà oublié son nom, Alliance, ça?
De l'Alliance, ouais.
Bah, voilà.
Il sera pré-mi-juin, donc je ne pourrai pas le mettre, mais je mettrai mon lien vers ma page Facebook.
Voilà, ton lien vers la page Facebook.
Et le lien vers, vers...
Je peux te contacter?
Comment?
Que les gens puissent te contacter, donc le lien sur la page Facebook, si tu n'as que ça aujourd'hui, bien sûr, mais ça, ouais. Merci infiniment, Julien, c'était passionnant. C'était un vrai et réel plaisir de te recevoir.
Moi, je suis super content de faire partie de ce congrès. J'espère que vous me réinviterez l'année prochaine.
Mais avec grand plaisir. On n'a pas encore réfléchi à qui, quand, comment, quoi. Moi, je suis très intéressée par le stage de septembre. Je vais regarder si c'est compatible avec mon agenda.
Oui.
J'ai trouvé ça passionnant.
Et d'ici là, arme-toi de quelques nouvelles études scientifiques qui montrent tout ça pour les cerveaux gauches qui nous écoutent.
Non, mais il en faut des cerveaux gauches, il faut des cerveaux gauches et des cerveaux droits. Contactez-moi sur Twitter et là vous allez être débordé parce qu'en ce moment ils publient beaucoup et c'est vraiment très intéressant.
Sur Twitter, faut qu'on s'y mette alors. Le congrès n'est pas sur Twitter.
Ah.
On maîtrise pas la chose.
Le congrès est sur Twitter,
mais on n'y va jamais.
Non.
Il y a personne au bout.
Non.
On se retrouve vendredi, Julien. Tu pourrais être là pour la soirée de gala?
Ouais, je serai là. Ouais.
Génial. On est en train d'organiser la soirée, de savoir les interventions des gens qui peuvent être là. C'est pas organisé encore. C'est vendredi. Ça commencera vendredi soir à 20h.
Voilà. Ça c'est organisé.
Ça c'est sûr. Prêt.
À 20h.
Okay. Et ça finira quand ça finira.
Ça finira quand ça finira.
Oui, ça peut
C'est
durer
parfait.
2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3, on verra. Voilà.
Ok. Juste pour finir, je voudrais dire que mes propos ne soient pas mal interprétés. Si vous avez un cancer, l'EFT, c'est un traitement complémentaire. J'en remets un peu une couche parce que des fois, ça peut être
Vas-y,
mal
pas de
interprété
problème.
et après, ça pose problème. Consultez toujours un cancérologue, consultez toujours des spécialistes. Ok?
Oui. On va l'écrire, en gros. Voilà. Pas de
Faites-vous une
correspondance.
équipe, faites-vous une
Oui.
équipe de voilà, un cancérologue, un naturopathe, un spécialiste en EFT, faites-vous une super équipe pour agir sur tous les facteurs qui déstabilisent l'ADN, voire même des géobiologues. Faites-vous une belle équipe et voilà.
Une équipe de réussite.
Voilà, une belle
Voilà.
équipe.
Pour tout.
Voilà. Voilà.
Merci beaucoup,
Merci
Julien.
infiniment, Julien.
Ben, merci à
À
vous.
très vite.
À
À très
bientôt.
vite.
Au
À
revoir.
vendredi. Au
Bye bye.
revoir. Et bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée à tous.
Si vraiment vous avez du mal à vous quitter, continuez sur Facebook. Le
Oui.
dialogue peut continuer sur la page Facebook du congrès. Il s'appelle Congrès virtuel EFT. Et c'est la même page depuis quelques années, donc il n'y a pas 2015 dedans. C'est juste Congrès virtuel EFT.
Merci Maria.
Et voilà, on va clôturer cette soirée.
Merci à tous, merci pour votre présence.
Et on se retrouve demain soir à 19h.
Faites passer le mot, l'EFT est un super outil. Demain soir, alors, demain soir, nous allons retrouver pour la dernière soirée des conférences. C'est demain soir la dernière et nous recevrons à 19h, Maria Hanel pour les trois principes pour une pratique professionnelle d'EFT prospère. Et à 21h, Sophie Merle qui viendra nous parler du décollage en fusée de l'EFT avec la méthode EFT Tap Tap Command, qui est une méthode qu'elle a créée et qui est de l'EFT qu'elle a transformée. C'est pas de l'EFT classique. Mais ça fait partie de.
C'est de l'EFT quand même. Ça fait partie de l'univers EFT.
Ça fait partie de l'univers psycho-énergétique EFT.
Et nous sommes très heureuses et très fières d'avoir cette année la grande Sophie Merle
On
parmi
adore.
nos présentateurs. Voilà.
Voilà. Grand merci à Sophie si tu nous écoutes. On t'attend demain avec impatience.
Mais ce n'est pas tout. Vendredi soir, nous pourrons tous nous retrouver pour la soirée de gala à 20h et Body Sign, oui, la soirée de gala sera en réécoute et peut-être même un peu plus que 24 heures.
Oui, la soirée de la gala, on la mettra en réécoute
Voilà.
pendant 4 semaines, comme on fait d'habitude.
Oui, certainement.
4 ou 5 ou 6 ou 10 semaines, je ne sais
Voire un
plus,
an.
mais je crois qu'il y a encore sur le
Oui,
site de
elle est
l'année
encore.
dernière.
Oui. Il y aura réponse aux questions qui sont restées en suspens, donc
Oui.
n'hésitez pas à les ramener. Vous pouvez ramener des fraises aussi, mais ça passe mal par les lignes d'Internet. Et il y aura des interventions de différents experts, il y aura quelques surprises, quelques partenaires. Et en fait, c'est tellement des surprises que même nous, on ne connaît pas encore tout.
En tout cas, je sais qu'il y a du monde. On va être nombreux à
Il va y
vouloir
avoir du monde,
intervenir
oui.
et nombreux à répondre à vos questions. Ça sera surtout une soirée à base de questions-réponses avec des petites interventions brèves. Ça ne sera pas des conférences d'1 heure comme ce soir. Voilà, soyez-y si le cœur vous en dit. C'est à votre disposition sur le buffet, si vous en voulez. Vous pourrez venir en manger.
Voilà. Merci à tous.
Merci à tous. Et en attendant,
Bonne fin de soirée et tapotez-vous bien.
tapotez-vous bien.